Nous sommes toujours dans la série qui vous avait été présentée lors de la réunion de rentrée, une église, pourquoi faire? Et ce matin, je vous propose d'essayer d'aborder cette question en y répondant qu'en partie, parce que le sujet est vaste, avec une idée directrice, cette notion d'assemblée. En fait, le titre pourrait être une parodie d'un titre qu'on a connu. Église, vous avez dit Église, avec un gros point d'interrogation, référence à bizarre, vous avez dit bizarre avec ce genre de choses. Je peux demander à Christian de remettre ce moment dans les mains du Seigneur.
Père, nous voulons te remercier parce que tu veux encore nous parler ce matin. Seigneur, que nos cœurs soient à l'écoute, tout entier à l'écoute de ce qui va nous être dit et qui vient de nous faire part. Merci encore pour cette communion. Garde-nous pendant ces instants auprès de toi. Amen.
Amen. Le mot grec ecclésia traduit le mot hébreu kalal, K-H-A-L-A-L, qui lui-même désigne plusieurs types d'assemblées. C'est ce mot-là qu'on retrouve en Genèse 49.6, Jérémie 44.15, pour ne citer que quelques références. Par contre, et en particulier dans le livre du Deutéronome, ce mot est utilisé pour désigner l'assemblée solennelle du peuple d'Israël convoqué par Dieu. Deutéronome 5.22, 9.10, 10.4, pour ceux qui voudraient retrouver les références. Pour recevoir la loi, et contracter l'alliance. Je ne dis surtout pas que, je ne dis surtout pas que l'Église actuelle a vu ses premiers jours dans l'ancienne assemblée. Je vous propose simplement de faire un genre de parallèle, de voir un peu comment le peuple de Dieu a évolué dans ses assemblées cultuelles, quelles ont été leur chute, de façon à pouvoir en tirer pour nous un enseignement. Pour ceux qui le connaissent, Jules Marcel Nicole affirme qu'il y a l'existence d'une certaine continuité entre le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance et l'Église. Mais aucun texte ne précise, bien entendu, que l'Église de la Nouvelle Alliance remplace celle de l'Ancienne. Pour être bien précisé des choses au début, je préciserai, j'y reviendrai tout à l'heure, que l'apôtre Pierre utilise mot pour mot un verset du Lévitique pour exprimer, pour qualifier l'Église. Et je vous laisse l'extrait de l'Épître aux Romains, le chapitre 9, les versets 25 à 27, dans la version du Semeur, quand Paul affirme justement la teneur de ce qui lui semble être l'Église. Verset 25, c'est ce qu'il dit dans son livre du prophète Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. » Au lieu même, on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Et pour ce qui concerne Israël, Ésaïe déclare de son côté « Même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé ». On a bien là la définition de le peuple composé des non-juifs et du reste d'Israël. Pour essayer donc, par rapport à ce texte ancien dans l'Ancien Testament qu'on va lire, et voir un peu comment évolue le peuple de Dieu, pourquoi est-ce qu'il se rassemble, et nous essaierons d'en tirer des conséquences pour nous par la suite. Je vous propose de lire dans le second livre des Chroniques, au chapitre 5, les versets 2 à 11. Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 5, les versets 2 à 11, en sautant toutefois trois versets. L'intitulé de ce passage-là, c'est la dédicace du temple. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs des familles des Israélites, pour faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes qui a lieu au 7e mois. Tous les responsables d'Israël vinrent et les Lévites se chargèrent de porter le coffre sacré. Le verset, les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël rassemblés auprès de lui devant le coffre offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et gros bétails qu'on ne pourrait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Verset 10. Dans le coffre, il y avait seulement les deux tablettes que Moïse y avait placées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté de l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des lyres. Il y avait là Asaph, Eman, Yedutun, avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant « Car il est bon, car son amour durera toujours. » Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Dans le contexte où nous sommes là, 500 ans à peu près après que le peuple ait erré dans le désert, et se soit laissé aller une période trouble, avant qu'un premier roi leur ait été donné, Saül, puis un second, selon le cœur de Dieu David. Il naît dans celui-ci la volonté de construire un temple, un lieu de louange et d'adoration pour remplacer cette tente amovible, démontable, qui contenait l'arche de l'Alliance. Selon Dieu, David a trop de sang sur les mains pour construire ce temple et c'est son fils qui en aura la charge. C'est à l'initiative de Dieu que ce transfert se fait entre David et Salomon. On peut remarquer que le lieu d'adoration est une tente et elle a été inspirée par Moïse, tout comme la construction du temple. D'une construction mobile, de quelque chose qui se déplace, on passe maintenant à un lieu géographique fixe. D'un matériel qui était en permanence démonté, puis remonter au gré de la volonté divine pour traverser le désert, il est maintenant construit un temple absolument extraordinaire, nous disent les textes, d'après les descriptions qui nous sont laissées. D'une période nomade, le peuple passe à une période sédentaire et est enfin au bénéfice des promesses divines. Dieu est au milieu de son peuple. Et ce jour-là, particulièrement, lors de la dédicace du temple, le peuple élu chante, loue Dieu. Et voilà que la gloire de l'Éternel remplit le temple. La rencontre entre Dieu et ses créatures est là à ce moment-là. Mais avant d'en arriver là, il a fallu quand même que ce peuple connaisse quelques incidents. Par exemple, les deux fils d'Aaron, dans le chapitre 10 du Lévitique, dans le désert, alors que justement il y a une première rencontre, ils arrivent avec un feu profane dans le lieu très saint, et la colère de l'Éternel est immédiate, ils sont consumés par le feu. Le fils d'Élie, un peu plus loin, sacrificateur. L'Élie, le sacrificateur, qui truandait les offrandes apportées par le peuple, il se servait avant qu'elles ne soient consumées. Ils moururent à la guerre et Élie, apprenant cette nouvelle-là, mourut lui aussi. Il y a aussi les murmures de ce peuple, les critiques prononcées qui ont bien souvent mis Dieu en colère, à propos des cailles, à propos de l'eau. Tout ce qui ne se déroule pas selon le plan humain. Ces murmures sont dirigés contre Dieu ou contre Moïse. Pour revenir au texte, tout se passe bien quand le peuple est réuni pour adorer les chants, les cymbales, les trompettes sont là, tous les cœurs sont unanimes pour chanter la gloire de Dieu. Et pourtant, malgré ce temple, malgré cette présence, malgré sa représentativité de ce temple-là, les cœurs ne changent pas. Décidément, ce plan de Dieu-là ne convient pas à son peuple. Malgré toute la démonstration qui est faite de sa puissance, de son amour, de sa compassion, rien n'y fait, le peuple s'éloigne. Les uns s'attachent à la religion, les autres à leur convoitise. Leur cœur reste identiquement mauvais au point que le changement est éphémère. Quelques jours, quelques semaines, dès qu'on s'éloigne du temple, on retombe vite dans notre affaire. L'envie de ressembler aux autres peuples est très forte. L'idolâtrie est à son comble. Mais est-ce que le plan de Dieu s'arrête parce que les hommes ne suivent pas? Ce n'est pas parce que le peuple élu ne sait se tenir ni dans le temple ni hors du temple que le Seigneur va arrêter de dérouler son plan. Non, la promesse a été faite à David que l'un de sa descendance sera jamais sur le trône. Il dit déjà qu'il établira une nouvelle alliance. En Jérémie 31, les versets 33-34, il nous est dit « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou à son frère « Il faut que tu connaisses l'Éternel. » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Dans l'expression « tous me connaîtront », il s'agit bien de la nouvelle alliance. Alors, dans l'histoire de ce peuple, l'assemblée est réduite à un seul être. Un seul qui aura toutes les caractéristiques parfaites, qui rassemblera une grande quantité de croyants. Celui-là même qui aura la charge de rassembler le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu selon Paul dans l'Épître aux Galates. Peu importe d'être circoncis ou non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Que la paix et la grâce de Dieu soient accordées à tous ceux qui suivent cette règle de vie, ainsi qu'à l'Israël de Dieu. L'apôtre Pierre nous indique, d'ailleurs, au premier chapitre de sa première épître, les versets 18 à 20, c'est ce que je vous propose de lire. C'est le pendant du texte qu'on a lu à propos de la dédicace du temple. Première épître de Pierre, le chapitre 1er, versets 18 à 20. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. C'est donc par Christ, Dieu fait homme, que nous sommes rachetés de notre mauvaise vie. C'est par le don de sa vie, on l'a rappelé ce matin, par sa mort à la croix, que nous sommes rachetés, justifiés. C'est à lui que revient la qualité de rassembler les croyants. Il dit lui-même, « Je bâtirai mon Église ». Jésus, cité dans l'évangile de Jean, nous dit, dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole, « Dieu les instruira tous ». Il cite là Jérémie. « Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. » Qui renvoie à cette parole, pierre angulaire pour la construction du temple. Le deuxième passage que je vous propose, c'est Première épître de Pierre, le chapitre 2, les versets 4 à 10. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous aussi vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre d'angle, une pierre de grande valeur, et je la pose en Sion, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous qui croyez, l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses que vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. C'est le verset cité tout à l'heure. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Depuis un peu moins de 2000 ans, le nouveau temple, c'est Christ. Chaque croyant, nous dit le texte, est une pierre vivante, un nouvel édifice. L'apôtre nous exhorte à former un temple spirituel afin d'offrir des sacrifices spirituels. Chaque pierre vivante témoigne de l'ensemble. Un édifice constitué pour chacun d'entre nous. Racheté des ténèbres, nous dit le texte, à son admirable lumière. Paul nous donne une image similaire dans l'Épître aux Éphésiens. Chapitre 2, « Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés à l'ensemble de cette construction pour former une demeure où habite Dieu par l'Esprit. » Il indique clairement nos positions. L'Esprit Saint, conformément à ce que Jésus nous a annoncé, habite en nous. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec l'Ancienne Alliance. Ainsi, l'évolution du temple passe d'une tente dans le désert qui abritait l'arche, qui servait pour entretenir le lien extérieur avec le Créateur, le temps de la rencontre. Elle ne permet pas de rester attachée au Seigneur. Puis après, le temple bâti en pierre. Peut-être que les hommes ont cru qu'on pouvait y rester attaché. C'était un bâtiment majestueux, dont tous les peuples autour avaient entendu parler, vous pouvez venir le voir. Mais le cœur n'est pas là. Le temple a été détruit 587 ans avant Jésus-Christ, reconstruit avec une splendeur beaucoup moins importante. Et Jésus, au temps d'Hérode, au temps de Jésus, avait entrepris les travaux d'agrandissement, non pas pour le culte, mais pour s'acquérir les faveurs des Juifs. Mais le temple véritable, c'est Christ. Il l'indique lui-même, il est maintenant dans nos cœurs. D'extérieur qu'il était, le temple est venu à l'intérieur. À l'intérieur de chacun de nos cœurs, comme Jérémie l'avait annoncé. Autant les temples extérieurs pouvaient être pris, détruits, autant là, nous avons deux choix possibles. Deux choix. Le rejeter ou l'accepter. Nous avons les mêmes exhortations, les mêmes recommandations. Nous nous réunissons pour glorifier Dieu. Le texte nous dit au verset 9 que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a passé des ténèbres à son admirable lumière. Dans d'autres versions, il est dit afin d'annoncer les vertus. Le texte nous dit aussi que nous sommes une communauté de rois prêtres. Ceux-là même qui, dans l'ancienne alliance, offraient des sacrifices. Les nôtres sont spirituels. Sacrifices de louange. Hébreux 13, 15 nous dit de célébrer en tout temps un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Un sacrifice de service. Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit, au chapitre 12, d'offrir nos sacrifices, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. D'amour. Toujours dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, les versets 9 à 21 nous laissent comme une feuille de route. L'amour ne sait pas mentir, et il est donc le mal en horreur. Attachez-vous de toute force au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. L'ardeur, n'hésitez pas. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, quelle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'assurance. La prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Autrement dit, nous devons prendre garde, à l'instar de ceux qui s'approchaient de la tente, de ne pas s'approcher sans préparation, d'avoir toujours un cœur bien disposé, de nous souvenir en permanence de ce que Christ a fait en nous. Et s'il l'a fait en nous, il l'a fait aussi pour vous, pour chacun d'entre nous. Nous avons un exemple où mentir à Dieu pose problème. Alors que c'est les premiers instants de l'Église primitive, deux personnes, Ananias et Saphira, s'approchent et font croire que les biens qu'ils ont vendus, la totalité des sommes récoltées des biens qu'ils ont vendus, sera versée à la communauté. Et ils mentent. Et ils sont morts sur le coup, tout comme pour ceux qui se sont approchés de la tente de la rencontre avec une légère insouciance. En comprenant ce qu'il a accompli dans nos vies, nous sommes des pierres vivantes. Chaque pierre frotte l'une sur l'autre. Et comme dans toute construction, il y a un joint pour relier les pierres. Ce joint-là, c'est l'amour de Christ. C'est lui qui va amortir la rugosité de nos caractères, adoucir la dureté de nos propos, modifier la rigidité de nos pensées. Voir sa gloire, c'est de savoir ce qu'il a accompli dans la vie de chacun. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, mais de dire ce qu'il a fait cette semaine, par exemple, ce qu'il a favorisé ou empêché. Dans le temple, la nuée apparaissait. Nous a-t-il permis de mieux comprendre tel ou tel passage de l'Écriture ? D'avancer sur le chemin de la sanctification ? Dans l'épître, dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul se réjouit des progrès que fait l'Assemblée. Mesurer la gloire de Dieu et la partager. Ma fille aînée adoptive a été endoctrinée il y a 20 ans à peu près. Pour l'arracher de cet endoctrinement, il a fallu passer par la voie de la justice. L'instruction a duré de 2003 à 2009. En mai 2009, elle était l'une des trois personnes accusées de faits graves devant le tribunal d'Aix-en-Provence, tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Sans lien de sang avec ma fille, et le procès étant déclaré à huis clos, j'étais obligé d'être dehors. Et je recevais les nouvelles par texto de mon épouse qui était à l'intérieur. Elle racontait en quelques mots ce que les gens disaient là-bas. À l'extérieur, soit je lisais, soit je priais, l'aide du Seigneur pour cet enfant et pour sa mère. Le mercredi de cette semaine-là, j'avais ma belle-sœur au téléphone. Elle réside à Pau et elle fréquente une assemblée de Dieu là-bas. Et nous étions en train d'échanger sur l'évolution de la situation, l'évolution des événements, sur l'orientation à donner à nos prières. Et notre conversation, naturellement, est allée sur l'intervention divine. Quand on l'appelle. Et elle me disait qu'il entendait qu'il était présent, qu'il répondrait. J'avais les yeux humides, bis repetita, fixés sur le sol tout en marchant. Et notre discussion était vraiment très dense à ce moment-là, très forte. Et comme je levais les yeux pour réajuster ma trajectoire, j'ai eu le sentiment qu'il marchait là devant moi. La traduction de ces versets, il rendait le chemin droit et il aplanissait les sentiers. Naturellement, quand on a une sœur, un frère au téléphone, comme il y a même c'est sa belle-sœur, on partage. Et nos bouches ont éclaté en louange. Quelques plus tard, je lisais les textos que mon épouse m'avait envoyés. Et dans le même temps, dans le tribunal, toutes les mains étaient tendues vers notre fille, pour lui faire comprendre qu'elle était victime. Et quand je dis toutes les mains, ça allait du président du tribunal, en passant par le procureur, les avocats de la partie civile, les victimes. Aujourd'hui, je le remercie de ce qu'il m'a montré, sa présence, son action, ce jour-là en particulier. Notre fille n'a été condamnée qu'une peine avec sursis. Les mois suivants, les relations familiales ont été difficiles. Aujourd'hui, elle est toujours pas au Seigneur. Mais depuis un an et demi, les relations sont redevenues normales. Sa vie aussi. En l'occurrence, avec ma belle-sœur ce jour-là, on a pu mesurer la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à le louer et à célébrer les œuvres qu'il a fait. Il nous est rappelé que nous sommes le temple du Seigneur. Mais que nous restons encore pour un temps dans notre vieille nature. Alors, pouvons-nous murmurer, comme d'autres peuples l'ont fait, au point que la colère de Dieu soit attisée? Pas plus. Paul nous rappelle aux différentes assemblées, aux Corinthiens tout d'abord, et aux Philippiens, de ne pas murmurer. En citant justement que quelques-uns d'entre eux sont morts par l'exterminateur. Faites tout sans murmure ni discussion, car toutes choses sont conduites, voulues, tolérées par Dieu. Gardons-nous de médire, de nous laisser à quelques commentaires désobligeants dans notre assemblée qui attristent d'abord l'Esprit de Dieu, mais notre frère, notre sœur. Plus largement, aux Colossiens, Paul leur rappelle que la nouvelle vie en Christ appelle à rejeter tout cela, la colère, l'animosité, la méchanceté, les paroles grossières qui sortiraient de notre bouche. En effet, d'une même source d'eau, peut-il y avoir de l'eau pure et de l'eau amère? Comment peut-on faire sortir d'une même bouche jurons et louanges? Et je parle en premier pour moi, bien aimé. Je suis bricoleur à 10 heures, et quand ça ne se passe pas comme je veux, ou que le marteau rippe et vient enfoncer le doigt dans le bois, c'est difficile de réprimer des mots. Mais de notre bouche ne peuvent sortir louanges et vulgarité. L'évolution du peuple de Dieu, elle est passée d'un lieu géographique pour un peuple exclusif de construction humaine à une présence dans les cœurs de tous les hommes. De construction céleste. C'est encore une grâce de Dieu. C'est encore lui qui est aux commandes. L'Église, pour quoi faire? Et j'ai bientôt terminé. Pour chacun de ses membres, Jean-Marcel Nicole nous dit, le chrétien a besoin de ses frères pour se développer, et ses frères ont besoin de lui. Je partage cet avis. L'Église, pour quoi faire? Pour diffuser le parfum de la bonne odeur de Christ, répandre sa lumière. Être ses témoins, les témoins ensemble de ce que Dieu a accompli pour son peuple que nous sommes par Jésus-Christ. Se rassembler comme les membres d'une même famille pour rendre gloire à celui qui nous a réunis. Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, sans aucun défaut, il faudrait que je vous quitte alors. Quelle description! Il n'y a aucun commentaire à ajouter sur ce texte-là. Juste à nous asseoir, à nous positionner, puis à nous dire « Bon Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste à faire ?» Je vous laisse comme conclusion ce passage, c'est les 3 versets de l'Épître aux Hébreux, qui parle de l'Église triomphante. Chapitre 12, les versets 22 et 24. Mais au contraire, Vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel qui vengeance, celui de Christ, apporte le pardon de nos péchés. Amen. Amen.